Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle édition de La Croche-Oreille. C'est Jean-Pierre Gay et Gaétan Gosselin avec vous. Salut, Gaétan.
Salut, Jean-Pierre.
Alors, ce qu'on entendait, c'est un extrait sonore, évidemment, que Jocelyn Robert, notre invité ce soir, nous a apporté. Salut, Jocelyn.
Bonjour, bonjour. Bonsoir, qu'il faut dire.
Oui, de toute façon, l'art sonore, ça s'écoute de jour, de nuit, de soir. Qu'est-ce que tu nous as apporté comme introduction?
Ça, en fait, c'est Gaétan qui l'a apporté. Puis je me suis...
Ah, c'est Gaétan qui l'a apporté.
Ouais, ça s'intitule...
Je suis mêlé dans mes affaires, à ce moment.
Ça s'intitule Metaniki.
OK.
C'est drôle de truc, ça. Ça, c'est typique Robert Faggy. Vous vous souvenez, Robert Faggy?
Oui, Robert Faggy, qui est au Lantis aussi.
Oui, mais à l'époque, c'était Arbaud-Hubert. Puis Robert avait décidé de faire des pièces qui duraient 13 heures. Puis il vient me voir, puis il dit, Jocelyn, j'aimerais ça que tu fasses le son de la première qu'on va faire. OK. Il disait juste deux contraintes. T'as pas le droit d'instrument de musique, puis t'as pas le droit de rien de préenregistré.
T'apportes quelques objets. T'apportes des objets, des cloches.
Ben là, t'essayes d'inventer quelque chose pendant 13 heures. Ça finit par sonner comme ça.
Ah, et c'était deux. Cette pièce-là était deux.
Deux.
C'est
pardon?
Qui est l'auteur de
ça? Ah, ben c'est moi.
OK, c'est toi.
C'est moi qui l'ai faite, oui, mais pour la pièce que Robert Faggy
montait. Mais c'est Gaétan qui l'apporte.
C'est ça.
Alors voilà, bon, tout se raccroche. Jocelyn, t'es pas venu pour nous parler de Robert Faggy, t'es venu pour nous parler, entre autres, d'un projet de disque, de spectacle, un spectacle qui va se passer dans le cadre du mois multi, mais aussi un disque que t'as lancé la semaine dernière, en fait, c'est samedi passé, vendredi passé.
Vendredi, oui.
On va commencer par le spectacle avec René Gagnon. C'est pas la première fois que tu fais un spectacle avec René.
Non, on a fait ensemble de cette manière-là, oui. On a fait des performances, disons, dans les mêmes soirées, un à côté de l'autre. On a fait une série de performances, je pense, il y a 7 ou 8 ans. Ils avaient une tournée d'organiser. Il y avait un des performeurs qui s'est blessé. Ils ont cherché quelqu'un pour faire des performances dans la soirée, mais c'était un truc collectif. C'était une série de performances individuelles. Donc, on s'est côtoyé dans ce contexte-là. Mais faire des performances en duo comme ça, ça non, on n'a jamais fait ça. Ça va être la première fois.
Et c'est donc une performance que vous allez faire ensemble, mais que vous travaillez quand même si c'est une performance. Vous avez déjà un certain canevas, un projet, un schéma en cours.
En réalité, tu vois, tu m'as emmené sur une fausse piste, parce que c'est pas vraiment une performance, c'est une lecture de texte. Au départ, c'était une lecture de texte. Renée Gagnon est une écrivaine. Mm-hmm. Depuis une couple d'années, elle avait rien écrit. Je l'ai poussée un peu il y a un an et demi. On s'est rencontrés. J'ai dit, alors Renée, il faut que t'écrives absolument. Elle dit, OK, je vais écrire, mais on écrit quelque chose ensemble. Bon. Moi, je m'en allais à Berlin pour 2 mois. Je me suis ramassé en Allemagne. On s'est ouvert un compte Google ensemble. Mm-hmm. Et on a écrit un texte à deux têtes. Et puis, éventuellement, ce texte-là, il grandissait, ça allait pas mal. René est invité à faire une lecture de texte quelque part, et on pourrait lire ça, ça grossit comme ça. Puis on se ramasse au mois multi à faire une lecture publique avec une couple d'images, puis une couple d'autres options, disons.
Okay, mais à la base, c'est qu'il y a des options. Il y a des options là-dedans d'arriver avec des images, faire un spectacle un petit peu visuel, compte tenu que c'est dans le cadre du mois multi.
C'est ça.
Quelques petites images.
On s'est laissé détourner un peu, mettons.
Mais et ça va tourner autour d'un grand poète qui est Rimbaud. Mm. Et ça va s'appeler Il hacherait les éperviers. Je sais pas si c'est un titre qui est en évolution, mais hacherait les éperviers. Ça va parler de quoi si ça va hacherait les éperviers?
Eh boy, ça va parler de quoi? Ah, imagine, je t'invente une métaphore de même là. Imagine là, un sculpteur qui dit OK, je vais faire une quarantaine de versions de la Pietà. Il fera jamais du Michel-Ange, là, mais quelque part, ça va toujours être là. Il y a quelque chose de ça. On partait des textes de Rimbaud. On n'essayait pas d'écrire du Rimbaud, puis on n'essayait pas de... Mais on se laissait influencer par Rimbaud. Soit qu'on prenait la forme de la page, soit qu'on prenait quelques mots, soit qu'on prenait des pistes sur lesquelles il avait traversé lui, puis qu'on essayait de retraverser le même chemin. C'était tout le temps influencé par ou entouré par ou surveillé par-dessus l'épaule par. Mm-hmm. Mais c'est pas des textes de Rimbaud, ça prétend pas en être, heureusement. Sinon, tu seras mal, tu sais.
Ouais, parce que j'ai cherché, je me suis amusé à chercher un des deux termes, ou hacherait ou encore épervier. J'ai trouvé épervier, mais ça n'avait rien à voir avec ça. Mais hacherait ou quel que soit le temps, je ne l'ai pas trouvé. Mm-hmm. Donc, ça, vous avez donc extrapolé très, très loin l'idée de Rimbaud en parlant d'hacherait. Hacherait, c'est comme un peu travailler, triturer, défaire.
Mm-hmm. Hmm? Oui.
Donc, vous allez défaire, vous allez reconstruire, déconstruire quelque chose.
Quelque chose comme ça.
Ouais. Ouais. Avec du son et des images.
Oui. Ça, c'est, je pense, c'est samedi le 28, quelque chose comme ça.
Mm-hmm.
À la salle multi.
Et ça va suivre, ça, un projet de disque que tu as lancé ça, vendredi dernier.
Uh-huh.
Et qui était un disque qui était aussi une vidéo. Donc, on va parler parce que le disque vient de la vidéo, ou le disque accompagne la vidéo. Mais on va commencer par écouter un extrait de ce disque-là.
Rok czasu nie żyję.
C'est intéressant, cette pièce-là. Hein? Au début, il y a quelque chose qui est vraiment musical. On entend de la guitare, ce qui est, à ma connaissance, je me rappelle pas sur tes récents disques d'avoir entendu de la guitare.
Non, je faisais ça avec mes ongles.
Mais là, ça fait curieux d'entendre la guitare, le piano. C'est quasiment pas mal musical. Il y a beaucoup de field recording. Il y a des choses qui se passent dans la rue. Il y a des choses. On entend des bruits de départ. En tout cas, on imagine aisément là, qu'il y a une ville, il y a des voitures qui passent, des petites motos. Puis là, on sent qu'il y a un deuxième mouvement qui est plus conceptuel, là, qui est en train de s'installer. Là. Mais là, on s'est arrêté là parce que c'est une pièce qui dure quand même 22 minutes. Donc, c'est ce disque. Moi, je ne l'ai pas tout entendu encore, le disque. J'ai pas eu le temps. Mais est-ce que les quatre pièces sont vraiment dans ces ambiances-là ou celle-là est différente?
Non, les quatre sont assez différentes les unes des autres.
OK. Oui. Mais c'est un peu différent de ce que tu fais, de ce que tu faisais auparavant.
Mon premier disque, c'était un vinyle chez Recommended Records en 88, je pense. Puis si tu l'écoutais à côté de celui-là, tu dirais, ah ben oui, c'est Jocelyn, c'est bien ça, il fait exactement la même chose qu'il faisait il y a 30 ans.
Sérieux?
Oui.
Ah oui? Donc c'est un retour aux sources?
Non, c'est ça, j'ai toujours fait ça.
OK.
C'est comme si on écoutait les trois autres disques que j'ai fait avant celui-là, on dirait, ben Jocelyn fait tout le temps du piano.
Ouais, ben non, effectivement.
Je me suis adonné à faire plein de travaux de piano, fait que je les ai publiés, mais ça voulait pas dire que je faisais pas d'autres choses à côté qui n'ont pas été publiées, tu vois.
Ouais, effectivement.
Fait que c'est toutes des choses qui se font en parallèle, puis à un moment donné, il y en a une qui apparaît publiquement.
Mais c'est, en tout cas, moi, je vais reprendre ma question. C'est différent de ce qu'on a entendu de toi depuis...
Les trois derniers disques.
4-5. Mais c'est parce que tu produis beaucoup, ça. J'étais assez impressionné. Non, c'est pas fatigant. C'est assez rare dans le domaine de l'art sonore, là, des artistes qui produisent autant. Au moins, à ma connaissance, en tout cas, dans ma discothèque, j'en ai une quinzaine, à peu près. C'est assez rare dans le domaine qu'on des gens éditent ou présentent une production là, presque une fois par année. Là. En tout cas, dans les dernières années, c'était ça. Et ce qu'on entendait donc dernièrement, c'était pas du tout dans ces eaux-là.
Mais tu vois, c'est parce que aussi il y a une différence entre la manière dont tu ou vous pouvez l'écouter puis la manière dont je le fais. Mm-hmm. C'est-à-dire que toi, tu dis, ah, ben, il y a de la musique ici au début, hein,
ouais.
Passé du field recording. Pour moi, c'est des choses qui sont complètement équivalentes. C'est-à-dire, marcher dans la rue, écouter des sons ou avoir un objet en bois avec 6 cordes qui fait des sons, je vois pas beaucoup la différence.
Tu sais. Mm-hmm.
Jouer de la guitare, quand on entend de la guitare, ce qu'on entend, c'est de la guitare. Mais jouer de la guitare, c'est une autre affaire. C'est avoir un objet dans les mains pour faire du son. Avoir un micro ou avoir une guitare ou avoir la table ou le micro puis le brasser, ça fait partie d'une existence, ça fait partie d'un geste, ça fait partie de, tu sais.
Mm.
Pour moi, il n'y a pas une grande différence. Puis arriver à Berlin, louer une guitare, parce que c'est celle-là qu'on entend.
Okay.
Arriver à Berlin, louer une guitare, tous les musiciens vont dire, quand tu commences à jouer avec une guitare qui n'est pas la tienne, tu trouves tout le temps quelque chose d'autre.
Ouais.
Donc, ce son-là devient associé à cet objet-là, à ce lieu-là. Puis c'est pas jouer de la guitare. C'est ce qui s'est passé à ce moment-là, dans ces circonstances-là.
Mm-hmm.
Ça, évidemment, pour moi, c'est différent.
Mm. Oui. Gaétan?
Ouais, Jocelyn, ce que je trouve énigmatique, c'est le titre qui s'intitule The Maze. Et j'ai pas pris le temps de chercher la signification en anglaise, mais j'imagine que il y a un fil conducteur. Et pourquoi The Maze?
Ouais, ben ça c'est drôle parce que c'est arrivé à la fin. En fait, ce projet-là, ça fait longtemps. La pièce la plus vieille, je pense, elle date de 2002. Sur ce disque-là. Donc, c'est des choses que je ramasse un peu, comme on va en reparler peut-être la vidéo.
Oui.
C'est comme une boîte dans laquelle je mets des souvenirs, des morceaux de casse-tête, puis éventuellement, ça fait presque une image. Et à un moment donné, il y a une femme qui s'appelle Marisa Lourenço, qui est une amie Facebook. Je l'ai jamais rencontrée. C'est une Portugaise qui déménage à Londres. Elle arrive à Londres et il y a ce labyrinthe, c'est un parc typiquement anglais, c'est un labyrinthe végétal.
Et comme à l'entrée, on voit anglais, ben oui, sont désorganisés.
Et il y a l'entrée avec le nom de May, c'est le labyrinthe, c'est ça que ça veut dire, le dédale.
Ouais.
Et c'était ça. C'est ça. Ça a été quand j'ai vu la photo sur Facebook, on s'est parlé ensuite. Et éventuellement, la photo est devenue la pochette du disque.
La pochette du disque, oui.
C'était comme la clé qui faisait, OK, tous les sons qu'il y a dans cette boîte-là, c'est des sons qui ont rapport à mon déplacement dans le monde. C'est des choses que j'enregistrais à San Francisco, d'autres à Berlin, d'autres à Paris, d'autres ici, d'autres là. Et puis c'est comme une
c'est comme un labyrinthe de souvenirs, une sorte
de
dédale,
quelque chose comme ça. Alors c'est le dédale que j'ai parcouru depuis 15 ans. Ben un des dédales, on s'entend là. Un des chemins.
Au, que j'ai au plan sonore, en tout cas, c'est là-dedans que tu t'es promené, t'as fait des petits bouts là, puis
C'est pour ça que ça s'est appelé comme ça.
Tu disais que le disque s'est fait. Oui, t'avais d'autres choses, Gaëtan.
Vas-y, Jean-Pierre, je vais revenir tantôt sur les intitulés des pièces.
Ah, ben écoute, on va continuer sur le disque. J'allais parler de la vidéo, mais vas-y.
C'est bon. Écoute, Jocelyn, on parle de la ville la nuit, on parle de San Francisco, mais il y a la chute d'Icare et le fil d'Ariane, donc deux grands morceaux de la mythologie. Mm-hmm. Puis, est-ce que c'est quelque chose qui est récurrent dans ton travail, que cette réflexion-là sur la mythologie? Je vais dire ça comme ça, en partant de deux titres qu'on trouve sur cet album-ci.
Pas sur la mythologie, mais sur, disons, la symbolique des lieux. Donc, la partie de la mythologie qui s'intéresse aux lieux. J'enseigne, c'est un autre défaut que j'ai, mais j'ai enseigné l'art et la cartographie, les rapports entre la cartographie et l'art. Et c'est assez, assez fascinant comment le mythe d'Icare, c'est l'invention de la cartographie. C'est ce que ça symbolise. C'est le type qui s'éloigne assez pour avoir une vue d'ensemble d'un lieu commun. C'est comme l'invention du village, à la limite. C'est l'invention du concept du village.
Oui.
Et ça, c'est assez fascinant. Et donc, ben évidemment, quand tu fais le genre de voyage que j'ai... Ben, le genre de vie que j'ai fait dans les 15 dernières années, t'es dans des avions. C'est ce que tu vois au sol. La nuit, c'est fascinant. Tu sais, il n'y a rien. Puis il y a cette espèce de petit agglomérat, là.
Des lumières.
Oui, il y a un village. Y a, depuis 10 000 ans, il y a des villages.
On va revenir donc à la vidéo, parce qu'il y avait aussi, lors de ce lancement, une vidéo. Et tu disais justement ce que tu es en train de dire pour ton disque, que dans le fond, que cette vidéo-là, c'est un ensemble, c'est comme un ramassis de tes œuvres, de ton parcours de vidéaste, des images que tu as faites, tu as mis tout ça ensemble. Et là-dedans, t'as des vieilles images, t'as une image de vieux film où il y a un personnage qui est pris au ralenti puis qui envoie la main. Ça vient d'où, cette image-là? Ça m'a frappé, moi, dans ton film.
Ben, elle était déjà dans une installation que j'ai présentée en 2005, la première fois à Vox à Montréal, puis en 2009 à L'œil de poisson. C'est mon père.
Okay.
C'est mon père, probablement à l'époque où je suis né, à peu de choses près.
Oui, parce que ça a l'air des années 50.
Ouais. Ben, je ne suis pas si vieux que ça. Mettons les années 60. Puis... et c'est ça, c'était un vieux film Super 8. Puis que, bon, j'en ai filmé toute une série. Le vieux mononcle qui décide de donner au son petit jeune les films. J'en ai filmé une série. Et éventuellement, j'ai ralenti celui-là. Puis je me suis rendu compte à quel point le geste devenait intéressant. Donc, je l'ai gardé. Mais
c'est le travail justement sur, parce que ça n'a pas été filmé à cette vitesse-là.
Non.
C'est justement c'est plus qu'un souvenir. Là. Il a été comme retravaillé ce souvenir-là pour ralentir un peu, pour étirer sa présence peut-être. Il y a quelque chose qui est très touchant dans ce geste-là qui met du temps à se déplacer. Même au début, on pense que c'est une photo tellement que c'était ralenti. Donc il y avait cette intention-là de ralentir
la vie. C'est pas du vrai piano, là. T'imagines pas que c'est de la musique.
En tout cas, je m'en allais dire quelque chose qui est super quétaine, mais je te le dis pareil. On n'est pas habitué en art sonore de parler de beauté, mais il y a là-dedans, dans cette séquence-là, puis dans cette pièce-là, des éléments de poésie, je dirais, de beauté. Tu sais, des beaux moments où il y a le temps semble suspendu. Il y a des longs silences ou des bruits très fins, puis tout d'un coup, ce piano-là qui embarque, tu sais, c'est y a quelque chose de beau dans ça. Parfois, on peut dire ça que c'est beau. Puis moi, je trouve que c'est rare qu'on ait ça en art sonore. Habituellement, l'art sonore, on le reçoit autrement. On le reçoit pour les concepts, pour... c'est plus raisonné, mais ça, là, à un moment donné, c'est pas la raison qui embarque, c'est comme la beauté. Quoi.
Ben, je pense qu'il y a quelque chose de particulier au fait que, tu sais, comme je disais, c'est une boîte de souvenirs.
Oui.
Et puis la mémoire, en réalité, ça existe. J'essaie de leur dire d'une manière intelligente, mais c'est comme si la mémoire n'existait que comme fiction. C'est-à-dire, tu sais, tu prends tes souvenirs, ils sont derrière, ils peuvent pas.
Tu peux pas les changer.
Ben non, tu peux même pas les voir, tu peux pas les prendre. Mm-hmm. Pour les voir, tu es obligé de les projeter devant. C'est ce que je fais ici, là, tu sais.
Okay.
J'ai pris ces souvenirs-là, puis je les ai projetés devant. Mais comme c'est des souvenirs qu'on met devant, comme c'est une fiction qu'on construit à partir de souvenirs, j'ai l'impression que c'est ça qui fait ce que tu appelles la beauté. C'est ça qui fait qu'on se rattache à ces sons-là, tu sais.
Mm-hmm.
Ce qu'on entendait, le piano, dans les fêtes, si on le réécoutait, on dirait, ah tiens, ben oui, c'est vrai, c'est le même thème qu'on entendait à la guitare, mais qui est repris sur un piano un peu croche, puis ça y crée une distance, parce que nécessairement, le piano est vieux, donc on vient de donner un âge à ce thème-là,
piano, puis à cette pièce-là.
Puis il est un peu plus loin dans le son. Puis, donc, on a créé cette distance, puis on a recréé cette distance-là entre le truc qu'on a entendu et la fiction du souvenir de ce côté. On l'a remis, la même chose, on l'a mis dans un contexte, on l'a mise dans un contexte, on lui a donné une date, on lui a donné un autre lieu, puis là, ça crée cette espèce de nostalgie-là, disons.
Ouais, nostalgie peut-être aussi.
Peut-être,
ouais. Gaëtan, on va aller à la pause, non, pas tout de suite, on a encore quelques minutes. Ben, il y a, sur tes disques, c'est, je dirais, sur, depuis 2004, c'est comme ça que
Tu m'as classé, là.
Ben, non, mais ça a donné comme ça.
Okay.
Tu remercies toujours des gens, tu remercies... puis évidemment, Diane, qui est toujours là, puis il y a René Robert qui apparaît souvent, mais il y a Denis Villeneuve qui apparaît systématiquement depuis 2004, en tout cas. Pourquoi Denis Villeneuve?
Probablement parce que c'est un homonyme de quelqu'un que tu as entendu parler. C'est pas le même Denis Villeneuve que celui que tu penses que c'est.
OK.
Denis Villeneuve, c'est un... j'ai deux frères, mais en réalité, j'ai trois frères. Denis Villeneuve, c'est mon troisième frère.
OK. Donc, c'est pas
c'est
le même.
Mon premier, je sais pas trop. En tout cas, je sais pas où il se classe, là, mais c'est mon frère aussi. Okay. C'est mon ami, ça fait depuis 78 78 qu'on se connaît. C'est quelqu'un qui m'a toujours aidé dans mes entreprises, même dans les moments où ça allait vraiment pas bien. Il a toujours été là. Et il est encore là.
OK.
Et c'est ça.
Donc, c'est pour ça qu'il est toujours là, même titre que Diane.
Oui.
Mais ça aurait pu être l'autre.
Ça aurait pu être l'autre
parce que l'autre aussi, il y a une grandeur au plan comme créateur québécois. C'est vraiment quelqu'un qui se démarque par rapport aux autres. Bon, ben, je suis content de savoir. Parce qu'il était vraiment récurrent depuis 2004. Puis je comprenais pas pourquoi depuis 2004.
Le plus beau de l'histoire, là, c'est que ce Denis Villeneuve dont on parle a aucun intérêt pour l'art.
Denis Villeneuve, le cinéaste. Ah non,
celui dont je parle. Okay. Et pourtant, c'est comme si nos manières de penser étaient parfaitement symétriques. C'est très curieux. C'est très curieux.
psychologique qu'un produit social.
Je crois, oui.
89.1ckrl.qc.ca. Du 14 au 18 février, la Bourse Rideau est de retour à Québec pour sa 29e édition. Plus de 1000 participants sont attendus à Québec pour cet événement qui met à l'honneur la danse, la musique, le théâtre et la chanson. Pour tout savoir sur le plus important rendez-vous francophone des professionnels des arts de la scène en Amérique, CKRL présente Bourse Rideau, animé par Tania Beaumont, diffusé en direct du Centre des congrès de Québec le mercredi 17 février de midi à 14h. Diffuseurs, producteurs, conférenciers, artistes et chroniqueurs seront présents pour vous faire vivre leur Bourse Rideau. Une collaboration de l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec, Rideau, CKRL 89.1.
Première Ovation vous invite à découvrir les talents émergents de Québec. L'artiste peintre Jessie Mélissa Bossé présente son exposition solo « Plateforme » à la Galerie du Faubourg de la Bibliothèque Saint-Jean-Baptiste. Fascinée par les trajectoires possibles d'une image, l'artiste fait imploser les limites du monde réel en jouant sur les forces et les tensions entre forme et couleur. L'exposition est accessible gratuitement jusqu'au 15 février au 755 rue Saint-Jean sous les heures d'ouverture de la bibliothèque. Visitez premièreovation.com et bibliothèquedequebec.qc.ca pour en apprendre plus.
Le numéro 6 de la revue Planche est maintenant disponible. Sous la couverture réalisée par Caton, retrouvez dans les dessous de la création une entrevue avec l'infatigable éditeur de Pow Pow, Luc Bossé. De son côté, Sophie Bédard vous montre à quel point c'est difficile de devenir une sorcière. Découvrez également plusieurs auteurs talentueux jamais publiés auparavant au Québec et de jeunes auteurs comme Xavier Cadieux, Catherine Bard et Simon Barbary.
Planche en kiosque dès maintenant.
Messieurs, je vous présente la reine Élisabeth, votre reine légitime. Vous tous qui êtes venus en ce jour lui rendre hommage et la servir, êtes-vous disposés à la reconnaître?
89.
Élisabeth II.
CKRL.QC.CA.
Et couronnée.
Cette émission vous est présentée par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique.
Alors, de retour avec Jocelyn Robert. Jocelyn, on est toujours sur le même disque,
oui.
Mais on est dans un univers totalement différent. On est à San Francisco.
Oui.
Alors, qu'est-ce qu'on vient d'entendre?
Encore là, on est dans la cartographie. Quand on parlait d'Icare tantôt, qui regarde les choses de loin, puis
oui.
C'est exactement ça. Sauf que dans ce cas-là, c'est moins impressionniste. La pièce précédente, c'est très personnel,
oui,
c'est
ce qu'on
a choisi
oui.
ici. Ça, c'est vraiment systématique. C'est une visite du San Francisco Museum of Modern Art.
Mm-hmm.
Quand on fait de la cartographie, c'est drôle parce que les gens... C'est drôle. Je veux pas rire de personne. Mais quand les gens font de la cartographie sonore, ce qu'ils font, ils se promènent avec un micro, puis une enregistreuse, puis ils font un parcours.
Mm-hmm.
Mais ça, c'est juste une partie de la cartographie. En cartographie, évidemment, tu choisis un territoire. Mais ensuite, il faut que tu changes l'échelle des choses.
Mm-hmm.
Faut que tu en enlèves puis il faut que tu en magnifies. C'est ça, une carte. Mmh. Une carte, t'enlèves les informations inutiles, tu changes l'échelle pour saisir un certain ensemble, puis tu rajoutes des choses, tu rajoutes des mots, tu colores des rivières, etc.
Ah oui, puis tu peux tramer tel type de secteur.
Exactement.
Tu spécifies
des choses.
Oui, ben c'est oui. Ça, tu
nommes. Alors,
tu
sais ce que j'ai fait? J'ai fait une visite de San Francisco Museum of Modern Art. Mmh. Ça me dure à peu près une heure. La pièce doit durer quoi? 7 minutes, quelque chose comme ça.
Oui.
J'ai changé son échelle, j'ai enlevé certains bruits parasites, j'ai magnifié d'autres sons, puis ça donne cette espèce de pièce de percussion, là.
Mais t'es rentré avec un micro?
Oui.
OK. Ouais. Donc, tu t'es promené avec ton micro dans le musée, puis t'as pas eu de gardien qui t'a accroché.
Pas cette fois-là.
Parce que, habituellement, les gardiens sont assez aux aguets, là. Ouais. C'est sûr que si t'arrives avec un appareil photo, là, ça marche pas, mais, tu sais, peut-être un micro, ça se cache un peu.
Ouais, je te dirais pas tous mes trucs, là, mais disons que.
T'es pas arrivé avec un gros micro, là.
Ça m'a moins marqué cette fois-là que la fois que je suis sorti d'un temple à Lhasa, puis que je suis arrivé devant 5 colonels chinois. Avec mes micros dans les mains, là, j'étais moins fier. Mais à San Francisco, ça passe bien.
Alors, on va parler maintenant d'un autre disque. En fait, c'est le précédent. Celui dont on vient de parler. C'est ton tout dernier, de Maze, que tu as présenté donc la semaine dernière et qui est disponible maintenant chez tous les bons disquaires. Il n'en reste plus
Il n'en reste pas.
Dans Saint-Jean-Baptiste, il n'en reste plus. Puis sur la rue Cartier, non plus.
Sur le web. On peut le commander sur le web.
Sur le web, parfait. C'est là qu'on peut le trouver.
Oui.
OK. Sur ton site.
Par mon site, on se rend jusque-là.
OK.
JocelynRobert.com.
Voilà. Le disque précédent qui s'appelle Piano Seul.
Oui.
Piano Seul, et là j'essaie de savoir, est-ce que c'est toi qui es seul au piano? Est-ce que c'est le piano qui joue tout seul? Parce qu'un disque clavier, ça peut jouer tout seul. Mais là, un disque clavier, c'est pas nécessairement un piano, c'est un piano. Mmh. Alors pourquoi un piano seul?
Ben, parce que c'était la première hypothèse. C'est moi tout seul au piano.
C'est toi tout seul au piano?
Oui.
OK. Au lieu de dire seul au piano, il y a du piano seul.
Mm-hmm. Ben parce que c'est effectivement piano du clavier, puis effectivement, il y a plus que moi au piano. Mm-hmm. C'est les pièces, en fait, il y a 2 ans, le Moi Multi m'a invité à faire un concert de piano.
Oui.
Et j'avais fait des concerts de piano entre 93 et 96, à peu près, avec des disques claviers.
Mm-hmm.
Et je m'étais vraiment tanné de ça. Alors, quand ça en était question, j'ai pensé à mon affaire 2 minutes. Je me suis dit, y a-t-il moyen que je rende ça intéressant pour moi-même? Tu sais, de le faire, puis d'avoir un peu de surprise à le faire, ou un peu de challenge à le faire, pas répéter des pièces, puis les exécuter, ce que je trouve qui est le terme exa, en général. Tu exécutes une pièce, elle est morte après, là, tu sais.
Ben ouais,
puis toi aussi.
Oui.
Et ce que j'ai fait, j'ai créé des logiciels. Bon, pour le commun des mortels, un disque clavier, c'est un vrai piano. C'est pas un piano électronique, c'est un vrai piano, mais qui a un système qui permet de le faire jouer comme un piano mécanique, mais en temps réel, donc on peut jouer avec ça. Donc, ce que j'ai fait une série de logiciels où, moi, je joue certains thèmes, je joue certaines choses. Le piano, disons, s'en souvient et me les rejoue.
Mm-hmm.
Et je peux modifier ce que j'ai joué, je peux rajouter, je peux enlever. Puis là, évidemment, dans le logiciel que j'écris, les logiciels que j'écris, chaque logiciel est son propre dédale.
Mais oui.
Chaque logiciel a ses propres pièges, puis j'essaie de m'en tirer. Puis évidemment, je fais certaines erreurs ou certains. Il y a des choses qui me surprennent dans ce qui se passe. Puis là, ben, ça m'amène à un endroit où je pensais pas aller.
C'est la
c'est qui était l'objectif du concert.
Ce qui était au Moi Multi, le concert.
Il y a deux ans,
c'était tu te battais avec ton piano d'une certaine façon.
Ouais. C'est pas une grosse lutte.
T'avais un piano rebelle.
Mais c'est un peu ça. C'est pas une grosse lutte, mais c'est comme si, c'est ça, il y a des pièges qui apparaissent, puis tu les as pas vus venir, puis là, ben, ça devient le motif principal de la pièce, d'être obligé de construire avec ce qui s'est passé.
Ben, on va écouter une première pièce de ce disque-là, Piano Seul. C'est laquelle qu'on envoie? OK. C'est la machine qui va décider. Thank you. Un long silence que seules les oreilles fines ont pu entendre. Donc, ça, c'est composé au 10 clavier toujours.
Oui. Okay. C'est-à-dire que c'est joué et composé en même temps. Là. Il y a une partie d'improvisation, mm-hmm. et il y a une partie qui est logicielle, qui réorganise ou qui répète d'une certaine manière des choses que j'ai jouées. Et donc, je joue un premier thème, la machine répond, et à partir de la réponse, je reconstruis, on joue ensemble. Donc, mm-hmm. C'est comme si je jouais avec mon écho un peu.
Mais en même temps, ça, la machine fait pas ça tout seul.
C'est non, évidemment. Je lui ai dit faire. Mais c'est comme un plan. Tu sais pas oui. C'est comme
donc,
quand donc, tu
as créé, créé la recette, si je peux dire, pour la machine. Puis tu dis, oui. Là, tu me fais ça quand je fais ça. Oui. Puis, bon, elle va te le faire.
Ben, je vais te donner un exemple très simple. Il y a une des pièces sur le 10, je pourrais pas dire laquelle. Fait qu'on pourra pas l'entendre, mais c'est un numéro. Mais il y en a une où je joue un thème. Oui. Puis la machine va le répéter. Si je rajoute une note, elle enlève la plus ancienne.
Hein?
Ah, ça fait,
donc,
ça
il y a un programme bouger. Qui dit toc, 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 si
il si joue deux notes, enlève les deux plus anciennes du lot. Alors, le thème va continuer de boucler, mais il va boucler en perdant des choses. Fait que là, c'est un drôle de calcul. Tu ajoutes des choses, il s'en enlève. Ça peut être, je dis une, mais c'est peut-être sept ou huit. Mm-hmm. Là, ça enlève les sept ou huit plus anciennes, puis ça évolue comme ça. Alors, c'est le genre de jeu que j'ai fait.
OK. Jocelyn, on pensait faire jouer une pièce de John Cage ce soir qui s'intitule Valentine, Out of Season, une pièce qu'il a composée à la fois pour sa femme, puis on pense qu'il l'a composée aussi pour Merce Cunningham. Mais donc, je t'écoute et je me dis, bon, quelle est la part du hasard et de l'aléatoire et du jeu là, dans tout ton travail? Est-ce que le piano est le piano seul une pièce d'exception ou si c'est quelque chose qui est récurrent dans ton travail de création?
Ben, en tout cas, dans le cas des pièces de piano, c'est clair que ça existe, cette idée-là. Mm-hmm. Je suis pas capable, c'est un peu bête, je suis pas capable de prévoir l'entièreté de ce que les logiciels que j'écris vont faire. Je suis pas capable de le prévoir. Et c'est ce qui me fascine. C'est un peu... Je me souviens, je vais vous raconter une anecdote, je me souviens de la cinquième pièce du deuxième disque du Piano Flou. Je me souviens exactement où j'étais. Ça doit être 92 à peu près. Mais pourtant,
le Piano Flou, c'est pas d'hier, là.
Non, c'est 92-93. Et je me souviens, j'étais dans le salon, puis j'avais construit cette espèce de petite machine logicielle-là, puis j'avais une idée de ce que ça allait faire à peu près, là. Puis quand je l'ai fait jouer, j'avais les yeux pleins d'eau. Mm. Ça faisait autre chose que je pensais. Mais... dans la même direction, mais un pas de plus. C'est ce qui est fascinant avec le logiciel Max, le logiciel que j'utilise pour faire ces choses-là. C'est pas un logiciel où tu fais du code, c'est un logiciel où tu fais des petits assemblages que tu branches ensemble. Puis éventuellement, ça va dans la direction que tu pensais, mais il y a un peu d'imprévu. Comme un sculpteur qui prend un bout de bois, puis qui est en train de s'en aller, puis à un moment donné, il voit une veine qu'il n'avait pas vue.
Ben oui, il avait pas
puis, t'en profites. On revient à la Pietà de Michel-Ange. Parce que c'est comme
oui,
ça.
Oui, c'est vrai, on a commencé comme ça. Ouais. Donc, moi, ce que je trouve intéressant dans ton travail, c'est que oui, c'est de la musique, mais en même temps, il y a quelque chose de, disons, scientifique dans ça. Il y a des formules, il y a des algorithmes. Donc, il y a une rencontre entre l'art et la science dans ton travail.
Tu dis il y a des formules. Je pense qu'il faut que tu fasses un pas derrière. Il y a des formes. Je vais avoir une exposition à vue je pense que c'est le 6 mai que ça ouvre. Mm-hmm. Puis quand tu regarderas les images, là, tu vas voir que la pièce qu'on vient d'écouter, là, c'est exactement la même chose que ce qu'on va voir sur les murs. C'est une forme. C'est pas une formule, mais c'est une forme. C'est une manière de voir le monde. C'est pour ça que je dis, quand tu me disais, oui, c'est de la musique, puis moi, on rit toujours autour de ces mots-là, mais c'est pas les mots que je prends parce que, à mon sens, c'est pas l'intervention principale. Mm-hmm. L'intervention principale, c'est la forme que tu donnes.
C'est ça. Mais, et c'est pour ça que moi, je suis pas dans ta tête, je suis dans ma tête. Et voilà,
Dieu merci.
Et heureusement, je suis de l'un et l'autre. Mais, c'est ça. Moi, quand je suis l'écouteur, ben, j'écoute et j'entends. Puis moi, j'entends avec mes références,
ben oui.
Avec ce que j'aime écouter aussi. Puis tout d'un coup, oups, il y a une pièce d'art sonore qui rentre. Puis après ça, ben, je peux écouter une patente de rock. Puis, donc, je classifie un peu ce que mm-hmm. je reçois. Puis je le rentre dans une case, tu sais. Alors, quand j'entends tes affaires, je suis toujours comme impressionné de voir qu'au plan formel, c'est intéressant puis c'est agréable à écouter. Mais en même temps, je me rends compte qu'il y a un travail derrière ça qui est au plan de la forme, mais il y a aussi un certain calcul qui est fait. Mm-hmm. Il y a, bon, Donc, c'est la rencontre, dans mes mots à moi, c'est la rencontre entre, entre l'art et la technologie, quelque part.
Mais ça n'a pas besoin d'être ça. C'est ça, parfois...
Mais ça, c'est parce qu'on veut le nommer, c'est parce qu'on est entrevu qu'on en parle.
Mais tu vois, là, c'est parfois. Dans ce cas-ci, il y a un logiciel, il y a un piano électronique, etc. Mais j'ai écrit des textes qui sont faits avec un crayon puis un bout de papier et qui sont faits avec les mêmes formes. C'est pas les mêmes technologies. Puis là, tu dirais, c'est drôle, hein? Il fait des textes aussi au crayon, il est bien bizarre. Non, c'est exactement la même forme. Alors, dans les faits, pour moi, il n'y a pas de saut. Tu sais, il n'y a pas de différence entre écrire un texte, faire une photographie ou écrire une pièce de piano parce que c'est les mêmes modèles que j'utilise, les mêmes moules.
C'est la même personne aussi qui pense de la même façon.
La même maudite manière.
C'est pas pour rien que tu es administrateur.
C'est juste une idée.
Ouais. En passant, tu es toujours directeur de l'École des arts visuels.
Oui, je suis toujours directeur de l'École des arts visuels.
Tu réussis comment à faire tout ça, produire autant de disques, puis aller voyager, être artiste en même temps?
Mesdames et messieurs, tenez-vous bien, je vais vous dire le truc, j'ai pas de TV. Ça fait 30 ans que j'ai pas de TV.
C'est vrai que c'est un loisir qui occupe pas mal.
Il fait que ça, c'est sa principale fonction.
C'est ça.
Comme disait Paul de Marinis,
nous empêcher de faire d'autres choses.
Ils ont inventé la télévision, puis ils ont vu les manifestations contre le Vietnam, ils ont dit c'est pas assez, ils ont inventé l'ordinateur personnel.
OK, attends, on est presque rendu vers la fin. Qu'est-ce qu'on entend?
Jocelyn vient de parler de Paul de Marinis et... C'est le début d'une pièce dont Jocelyn va nous parler, j'espère, parce qu'il nous disait en début d'émission que c'était pour lui une des pièces maîtresses de son répertoire sonore. Ouais. Eh bien, Jocelyn, vas-y donc, avant qu'on termine là-dessus.
C'est une pièce qui s'appelle... Hey boy. C'est le son de français, mais c'est dans une autre langue. Je pense que c'est dit en portugais ou en espagnol. Mais c'est une pièce où une machine essaye de parler. Et tantôt, quand on parlait de la mémoire qu'on projette devant soi comme une fiction et que ça crée une espèce de nostalgie, ici, dans ce cas-là, la nostalgie est créée par l'échec. La machine essaye de parler et elle échoue.
Ben merci. Merci, Jocelyn, d'être venu.
Cette émission vous a été présentée par Avatar, Centre d'artistes de Québec spécialisé en art audio et électronique. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes.